Bonjour à tous, très chers frères et sœurs. J'y arrive, frères et sœurs. Ok. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril 2026 et vous êtes bien en direct sur Radio Réveil, votre chaîne de radio chrétienne, pour vous édifier, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc ce matin, nous sommes réunis autour du nom de notre Seigneur pour partager sa parole, pour l'édification, pour nous encourager, pour nous bâtir. Et sur un thème que nous avions commencé la semaine dernière et que nous allons continuer, enrichir ou reprendre, voilà. Parce que malheureusement ou heureusement, Dieu faisant ces choses, avec les problèmes techniques d'électricité qu'on a eu, on n'a pas pu garder l'émission de la dernière fois parce qu'il y a certainement des personnes qui nous écoutent, qui l'ont écouté. Donc, ne soyez pas surpris, on reprend l'émission. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un thème et je ne suis pas seul avant d'annoncer le thème. Je suis avec deux sœurs et un frère. Bonjour à Mama Elena.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va.
D'accord, ok. Je suis également avec Sylvaine. Bonjour Sylvaine.
Bonjour mon frère.
Comment vas-tu?
Ça va, le Seigneur fait grâce.
Jésus est vivant?
Il est vivant.
J'ai un frère qui aimait toujours dire, quand il m'appelait, il me disait toujours, est-ce que Jésus est toujours au Seigneur de ton cœur? Et puis j'ai un autre frère qui aime dire, tant que Jésus est assis sur son trône, tout va bien. Et comme il n'y a aucun risque que personne ne le détrône,
c'est ça.
Tout va bien. Voilà, ce n'est pas un roi détrônable. Sa place n'est pas à prendre, personne ne peut la prendre, puisque personne n'a été trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, ni dans quelque endroit que ce soit, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc il est le seul, et la Bible nous dit que Jean a pleuré, donc personne ne peut prendre la place de notre Seigneur. Donc ce matin, comme je disais, nous sommes là pour partager la parole de Dieu sur le thème « La femme dans la Bible ». La femme dans la Bible, pourquoi la femme dans la Bible? Parce que la femme est dans la Bible, voilà, simplement. Et donc, on va se laisser conduire par le Seigneur pour pouvoir échanger sur ce thème. Donc, d'entrée de jeu, on va commencer avec une question à Mama Elena. Pourquoi ce thème, la femme dans la Bible?
Aïe. Donc, je suis mère et grand-mère. La vie est un petit peu longue et il est vrai que j'ai passé une période un peu rebelle où j'étais plutôt du genre contrariée par différentes choses, mais aussi par la faible expression de la femme dans la parole de Dieu. Par exemple, mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît même pas le nom de la femme de Noé? C'est incroyable, quoi. Noé, d'accord, mais sa femme, elle est quand même, elle aussi, au goulot du déluge. Pourquoi on ne connaît même pas son nom? Pourtant, elle était là. Et je suis absolument certaine qu'elle a contribué à tous les préparatifs. Donc voilà, pour ce cas et plein d'autres, la faible présence de la femme dans l'Ancien Testament, etc. Mais bon, les années sont passées, le Seigneur est sur son trône, et tant qu'il est sur son trône, tout va bien.
Tout va bien.
Donc le Seigneur me garde, m'a conduit, il y a des hauts, il y a des bas, mais il est toujours là, il est toujours fidèle. Il ne m'a absolument jamais abandonné, jamais laissé, jamais. Il est toujours là, quoi. C'est l'ami le plus proche qu'on puisse avoir dans le cœur. Donc je suis toujours là. Il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus exactement, j'ai commencé à lire les évangiles tous les matins. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et ça dure, je continue tous les matins. Je lis à mon rythme, un peu plus, un peu moins, pas grand-chose, mais tous les matins, sauf exception, je lis les évangiles. Excusez-moi. Et je me suis rendu compte, en lisant les évangiles, que le Seigneur honorait la femme, avait de la compassion, qu'il a dit des vérités importantes à la femme. comme par exemple à la Samaritaine, une femme étrangère, une femme qui avait déjà eu 5 maris et elle en était au 6e. Mais c'est à elle que le Seigneur a dit pour la première fois qu'il était le Messie. Donc la femme dans les évangiles a une place importante, très importante. Elle n'a pas une place de leader, elle n'a pas une place d'apôtre ou de faire de grandes choses, mais elle est toujours là. Donc c'est pour cela que, comme j'ai été apaisée dans ma lecture de la parole, mais aujourd'hui je me sens complètement apaisée, voilà, j'ai la paix, je n'ai plus du tout de rébellion dans le cœur, de contrariété, de frustration, de pourquoi. Non, ça va, je vais bien, donc c'est un petit peu la raison de ce thème.
Mais c'est vrai que même, on va dire peut-être que la femme de Lot, parce que c'est peut-être le mauvais exemple, mais on ne cite pas son nom, femme de Lot. On dit juste la femme de Lot se retourna et elle fut changée en statue des scènes.
Mais en fait, il y a beaucoup de femmes dans la Bible dont on parle et dont on ne donne pas le nom. La femme de Naïm, la veuve de Naïm, la Samaritaine, la pauvre veuve qui a donné les deux dernières pièces. Il y en a vraiment beaucoup dont on parle, mais dont on ne cite pas le nom.
Ouais.
Donc c'est un peu plus difficile pour s'en souvenir. Mais on va en parler pendant cette histoire.
Mais bon, quand même, juste pour rappeler aussi qu'il y a également quelques hommes qui ne sont pas cités, par exemple dans le livre, dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, avant que Boaz ne bénéficie du droit de rachat, on nous dit qu'il y avait quelqu'un qui avait le droit avant lui. Et quand Boaz va se trouver à la porte, il va lui dire « Toi, un tel !» En fait, on ne cite pas son nom. On a dit « Toi, un tel !» Donc, il y a quelques cas. Mais évidemment, c'est vrai que pour les femmes, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup dont les noms ne sont pas cités, alors qu'elles ont joué un rôle important et qu'elles continuent de jouer un rôle important dans l'œuvre du Seigneur. Alors, juste avant peut-être de commencer, Sylvaine, un commentaire, si tu avais quelque chose à dire.
Non, pas de commentaire pour le moment.
D'accord. Donc, on peut dérouler.
Voilà. Donc,
on est parti. Oui. Alors, on en a pour... il nous reste 42 minutes. Donc, c'est parti.
Ah, Évrard me montre le réveil parce que ça veut
On est un minuteur, on est sur 42 minutes, il faut surveiller l'heure.
Il m'arrive de ne pas parler pendant plusieurs jours, mais quand je m'y mets, je ne m'arrête plus. Donc il a raison de me mettre le réveil sous les yeux.
Il y a beaucoup à dire.
Il y a trop à dire sur les femmes, en fait. Un jour, un homme m'a demandé, mais est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas être né homme? Et j'ai eu une réaction, mais alors d'une rapidité... Ah non, alors Non, je suis heureuse d'être femme, fière d'être femme. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. J'y vais, je déroule.
Oui, vas-y, on peut y aller.
Alors en fait, ce sujet-là est un sujet qui m'a beaucoup perturbée. Pour la première émission, j'ai passé plusieurs nuits à mal dormir parce que ça brasse beaucoup de choses en fait de préparer ce sujet-là. Maintenant, non, ça va. Mais je souhaite définir un cadre, enfin, faire ressortir un cadre qui est dans la Bible. Il commence au premier chapitre de la Genèse et il se termine au dernier chapitre de l'Apocalypse, en fait. C'est un cadre qui englobe toute la situation de toute l'humanité entre le début et la fin. En fait, bon, reprenons les textes, hein, parce que je ne veux pas inventer quoi que ce soit. Dans Genèse 1, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. » L'homme et la femme, Ish et Isha, sont à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Il est évident que nous n'avons absolument pas le pouvoir, la puissance, la grandeur. Enfin, Dieu est tellement au-dessus de nous. Mais Dieu a des caractéristiques qu'il nous a aussi transmises. Le Seigneur aime l'humour. Et bien, nous aussi, nous aimons l'humour. Nous avons de la joie, de la peine. Et Dieu aussi a de la joie, a de la peine. Il peut se fâcher. Nous aussi, on peut se fâcher. Etc. Donc nous avons des caractéristiques de Dieu, mais pas la puissance, c'est évident. revenons à l'homme et à la femme. Genèse 2, l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'être vivant soit seul. Parce qu'au départ, il a créé un être vivant. Ensuite, il a pris une côte et il a créé la femme. Donc, il a séparé un être entier, uni, en deux. Une partie, c'est l'homme, et l'autre partie, c'est la femme. L'homme a ses caractéristiques, la femme a ses caractéristiques, et bien entendu, nous en avons quand même qui sont communes. Hein. Il n'y a pas de problème. Et Dieu a dit, je ferai pour lui une compagne capable de l'aider. Alors, Évrard n'avait pas trop été apprécié la dernière fois quand j'ai dit, mais celui qui aide, théoriquement, il est plus fort que celui qui est aidé, n'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas dire que la femme est plus forte que l'homme, pas du tout, mais ça veut dire que nous avons des caractéristiques de Dieu, que Dieu nous a confiées plus qu'à l'homme, l'homme ne les ayant pas ou peu, ou voilà, modérément, la femme peut l'aider dans les caractéristiques que Dieu lui a données.
Mais juste pour préciser, je suis entièrement d'accord avec. Hein. Je suis entièrement d'accord. Moi, je prends par exemple un cas. Il y a des jours, quand je suis à la maison, je vois mon épouse faire les tâches. L'endurance qu'elle a, moi, je peux faire des gros travaux, lourds, mais pour un court temps. Par contre, elle peut travailler parfois toute la journée. Je me dis, mais Dieu a donné aux femmes, elles n'ont pas la même force que nous de soulever des objets lourds, porter des grosses charges, mais cette endurance est parfois jusqu'à 22h, 23h. Quoi. Et moi, je suis complètement lessivé, paumé. Elle est fatiguée, mais c'est comme si la batterie s'est déchargée moins rapidement que la mienne.
Ah oui, nous avons une force, une résistance, une combativité, une hargne, je dirais même, ouais, à accomplir les tâches qui paraissent être secondaires, mais qui en fait sont fondamentales. Ouais. Elles sont fondamentales. Tout le travail que la femme fait, s'il n'était pas fait, mais ça serait le chaos. Ouais. Le chaos dans les familles, dans la société. Rien ne fonctionnerait si la femme n'accomplissait pas tout le travail laborieux qu'elle accomplit. Hein.
Ouais. D'ailleurs, même il y a une étude, bon, elle est souvent contestée, d'autres disent qu'elle n'a aucune base scientifique, mais qui dit, certains disent que les douleurs de l'enfantement, si elles étaient appliquées à l'homme, il ne survivrait pas. Il ne supporterait pas. Il mourrait peut-être avec des douleurs.
Ah oui, c'est possible.
Il y a certains scientifiques qui disent non, ça n'a aucun fondement scientifique. Mais bon, dans le monde scientifique, ils ne sont pas forcément toujours d'accord sur tous les points.
J'avoue qu'avoir accouché sans péridurale et la puissance que j'ai ressentie dans mon ventre, je me suis dit, mais est-ce qu'un homme... Est-ce que le plus grand des sportifs sur Terre est capable de développer une puissance aussi énorme dans un muscle? Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Ça m'a tellement sidéré cette puissance. Enfin bref, voilà, ce n'était pas le sujet du jour, mais ça, c'est vrai. C'est
ok,
vrai.
On y va.
Voilà, donc je voulais rappeler que la femme est à l'image de Dieu, elle n'est pas secondaire ou tertiaire, comme dans certains pays, elle a moins de valeur que les vaches. Voilà, il y a quand même un très gros problème de perception de la femme dans la société. Et pourquoi donc? Donc, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, quand il y a l'harmonie dans un couple, le couple devient une seule chair, un tout qu'on ne peut plus séparer, qu'on ne peut plus diviser. C'est vraiment quelque chose d'important. Il revient un petit peu à deux, on est un être uni, quoi. Hein, c'est vraiment important. Mais vous connaissez tous l'histoire du fruit interdit. Dieu a dit... du fruit interdit, pardon, et... il se passe que Ève a pris le fruit, en a mangé, en a donné à son mari qui en a mangé également. Et lorsque le Seigneur est venu à nouveau les visiter et qu'il a constaté déjà les premières conséquences du péché, il a dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » tu enfanteras avec douleur. Mais l'enfantement, ce n'est pas que l'accouchement. Hein. Ce sont toutes les nuits blanches qu'on passe. Pendant un an, deux ans, trois ans, dès que l'enfant tousse, on se réveille, on va le voir. C'est vraiment une... C'est la grossesse, l'accouchement, mais c'est tout le travail qui est fait les trois premières années et toutes les autres années d'éducation, etc. C'est... Voilà, tu enfanteras avec douleur. Et c'est vrai que nous portons toujours aujourd'hui la lourde responsabilité, la lourde charge de s'occuper des enfants. Mais il a dit aussi, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je répète cette phrase, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et c'est ce que nous constatons depuis, dans tous les pays du monde, dans tous les siècles passés, toutes les histoires, tous les rapports d'histoire, tout ce que l'on a, tout ce que l'on sait, on voit que l'homme a pris la domination sur la femme. Donc, ce que l'on vit à travers la parole de Dieu et dans nos vies quotidiennes, mesdames, ce sont tout simplement les conséquences du péché. Dieu a dit, voilà, la conséquence du péché sur toi, femme, c'est ça. Et on le portera jusqu'au bout. Même si on se rebelle, même si aujourd'hui, apparemment, la femme se libère, mais est-ce qu'elle se libère vraiment en travaillant deux fois plus? On peut se poser la question. Donc ça, c'était Genèse 3, verset 16 et Genèse 3, verset 17. Verset 17, pardon, Dieu a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point. Il a dit, tu travailleras avec difficulté dans les champs. Les premiers Adam, les premiers hommes qui ont construit, qui étaient des bâtisseurs, ont déplacé des pierres, mais énormes. On ne sait pas aujourd'hui comment ils ont fait pour faire des constructions aussi lourdes, aussi massives, aussi... Mais comment ont-ils fait? Ils
sans
étaient
grue.
Sûrement très puits, sans grues. Ils étaient sûrement forcément physiquement très puissants. Mais il a dit, à partir de maintenant, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Tu vas de plus en plus souffrir. Est-ce qu'on peut imaginer que la force de l'homme est diminuée et qu'aujourd'hui, soulever des briques, ça suffisant quoi, par rapport à soulever d'énormes pierres? Et il a dit aussi, tu es poussière, homme. Et tu retourneras dans la poussière. Quelle punition énorme! Il n'a pas dit à la femme qu'elle mourrait. Il a dit à l'homme qu'il mourrait. Et à travers lui, la femme aussi va mourir. Puisqu'il est évident qu'il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Donc la mort a atteint l'homme, et à travers l'homme, il a atteint aussi la femme. Donc nous vivons depuis ce temps-là une période de crise qui est assez importante, où l'homme souffre de son côté et la femme souffre de son côté. Il y a comme une division qui peut se limiter dans les couples, d'accord? Et donc ça, c'est le début du cadre. Il y a toute l'histoire avant le déluge, entre le déluge et Jésus-Christ, en l'an en zéro à peu près, hein. Et la nouvelle ère, donc l'ère de la nouvelle alliance qui est donc après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Durant ces trois périodes déjà, la division est là, la souffrance est là. Maintenant, allons à la fin du Nouveau Testament. Je voudrais juste faire une petite parenthèse en disant que dans les quatre évangiles, le Seigneur a redonné à la femme une place, la place d'une trame. Mais à la fin, il est dit, dans Galates 3, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Dans le Seigneur, nous sommes un comme Dieu est un. Dans 1 Pierre, il est dit, je ne donne pas la précision des références, hein, vous n'avez qu'à chercher, lisez la Bible,
hein. Lisez la Bible,
lisez, n'arrêtez pas de lire. Donc dans 1 Pierre, il est dit, honorez les femmes comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Dans Apocalypse 1, il est dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous hommes et femmes, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il a fait de nous un royaume uni. Dans Apocalypse 5, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dans Apocalypse 20, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui. Donc maintenant, on ne parle plus d'homme ou de femme. On parle d'un royaume, on parle de sacrificateurs, on parle d'une unité, unie maintenant. Et dans Apocalypse 19, allons encore plus loin. Ô homme, combien ça doit être compliqué pour vous d'imaginer que vous êtes non pas l'homme, mais l'épouse de Christ. Vous devez même vous mettre à la place des femmes. Homme, vous, chrétiens qui marchez avec le Seigneur, vous êtes l'épouse. Enfin, vous êtes.
Nous sommes tous ensemble.
L'épouse de Yeshua. Donc, on ne parle même plus d'hommes ou de femmes, puisque tous les hommes sont mis dans le panier de l'épouse. Les hommes deviennent l'épouse de Christ. Dans Apocalypse 19, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Dans Apocalypse 21, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Dans Apocalypse 22, et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entende dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc en fait, au départ, il y avait l'unité, la paix, l'harmonie. Puis à cause du péché, la division. Mais Dieu a mis un plan en place, un programme, un plan qui dépasse totalement la durée de notre vie. C'est un plan qui couvre 6000 ans, 7000 ans. Donc c'est un plan qui couvre toute l'humanité. Dieu a mis en place un plan qui, au bout, va réunifier tout le monde, va remettre les hommes et les femmes ensemble, ensemble comme un royaume, ensemble comme des sacrificateurs pour Dieu et pour le Père et Christ. Une épouse, les hommes vont devoir se mettre dans la peau d'une épouse pour être l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ, et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Apocalypse 22, c'est le dernier chapitre de la parole. Donc voilà, là, c'est vraiment ce schéma que j'avais envie de décrire, parce que nous, femmes, eh bien, nous sommes piégées dans ce schéma-là, à l'intérieur, comme les hommes de leur côté. Nous, les femmes, nous sommes piégées dans les conséquences du péché. Et même si on se bat, même si on crie, même si on fait des révoltes et des grèves et tout ça, rien ne changera. Il peut y avoir un peu d'amélioration. Dans certains pays, c'est encore extrêmement difficile pour les femmes, hein, parce qu'on sait que c'est une fille qui vient de naître. Non, on n'en veut pas, on va la tuer, on attend que le garçon arrive, quoi, parce que les filles, voilà. Il y a quand même énormément de souffrance et d'injustice contre les femmes. Et ce que je crois, ça c'est moi, c'est maman Léna qui parle, c'est avec un H. On subira cette situation jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Seigneur finisse d'accomplir tout son plan et recrée cette unité perdue pour l'éternité.
C'est vrai, non, mais c'est ça. C'est... La Bible dit que quand toutes choses auront été remises au Père, après que Christ ait réuni tout en lui, à ce moment-là, tout sera accompli. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup édifié, tout m'a édifié, mais ça sonnait dans mon esprit. C'est quand tu parlais des hommes qui vont devoir apprendre à être l'épouse de Christ. Mais je me suis rendu compte, je me suis dit, mais si les hommes, grâce à l'Esprit de Dieu, vont apprendre à être une bonne épouse, je me rends compte que une femme peut être une bonne épouse grâce à l'Esprit de Dieu. Donc, oui. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oui, mais pour moi, c'est compliqué, vous comprenez mon éducation, ceci. Mais en fait, si on laisse l'Esprit de Dieu nous travailler, peu importe qu'on soit homme ou femme, on peut être une bonne épouse. Mm-hmm. Puisque, in fine, nous les hommes qui sommes des époux aujourd'hui, on sera des bonnes épouses pour Christ notre Seigneur quand on sera avec lui, grâce à l'Esprit de Dieu qui nous aura transformés le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc, par l'Esprit de Dieu, tout est possible. Comme la Bible dit, tout est possible à celui qui croit.
Exactement.
Mais je voulais quand même dire quelque part, il y a certains hommes qui ont pris la parole du Seigneur comme pour affaiblir parfois la femme en général. Moi, par exemple, en grandissant, je passais... Pour moi, ma place n'était pas à m'asseoir à côté. Là où mon père était, je n'étais jamais là. Parce que pour moi, je me disais que ce n'était pas ma place. Parce que je me retrouvais... Alors, chaque fois que mon père m'appelait, c'était pour aller en cuisine, aller aider maman. Puisque maman faisait les champs, c'était pour l'aider à peut-être faire le manioc. Voilà, c'était ça mon rôle. Et il y avait certains propos que même je voyais mon père dire à ma mère et elle se mettait dans un coin pour pleurer. Voilà, parce que mon père c'était un grand lecteur de la Bible, hein. Il connaissait bien les Écritures. Donc, pour lui, la femme, elle avait sa place, n'était pas au milieu des hommes. Et je peux dire que j'ai passé la plus grande partie de mon adolescence dans la chambre. Parce que ma place était soit dans ma chambre, soit en cuisine. Donc, pour dire aussi que quelque part, il y a beaucoup de femmes dans le monde qui sont frustrées et qui ont parfois même du mal à venir à Jésus parce qu'elles se disent que même la parole nous met de côté, s'il faut dire ça comme ça. Alors que si on s'approche vraiment, on se rend compte qu'on a aussi de l'importance aux yeux du Seigneur.
C'est ça. Je crois que dans les femmes, il y a une énorme montagne de frustration, de sentiments divers et variés, mais de souffrance quand même, hein. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je crois qu'il y a une grande souffrance dans les femmes.
Mais donc, en fait, ce qu'on peut peut-être se poser comme question, est-ce que cette espèce d'inégalité à la fois dans les noms des femmes qui n'apparaissent pas dans la Bible et dans les comportements, on en conclut, je pense qu'on peut être d'accord, qu'elle ne vient pas du Seigneur, elle vient des hommes. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai que le Seigneur a mis la sanction qu'on a lue dans Genèse 3, 15 et 16. Mais in fine, en fait, les comportements qu'on observe et tout le reste, ce sont les humains qui les mettent en pratique, en fait. Oui, donc on est bien d'accord que le responsable n'est pas le Seigneur.
Ce n'est pas le Seigneur.
Ce sont les hommes.
Ce sont les hommes qui ont mal compris ce que le Seigneur a voulu ressortir dans sa parole.
Puis je suis désolée, mais c'est tellement plus agréable de dire « va faire ça pour moi » que de le faire soi-même, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc les femmes, si elles n'obéissent pas, elles se prennent un coup. Je pense qu'au départ, ça devait être pas mal comme ça. Et c'est facile, quoi, quand on... La force physique... Bon, fermons la parenthèse, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est vraiment pas là pour ça, je suis désolée. Voilà, donc après, on pourrait aborder la Bible sous... Il y a trois parties. Moi, je discerne trois parties. L'Ancien Testament, les quatre évangiles, le reste des épîtres, on en parlera peu. Voilà. Donc, en fait, pour moi, je peux reprendre l'histoire de la peinture. Là. Dans l'Ancien Testament, les femmes apparaissent peu, c'est vrai. Mais, par exemple, un peintre professionnel qui va peindre un tableau vert, un paysage tout vert, son tableau sera insipide ou bon, donnera pas envie. Enfin, voilà, c'est triste, il n'y a pas de vie. C'est bon, mais... Et après, voilà. Mais tous les peintres savent que quand ils peignent un tableau vert, il faut mettre des touches rouges, la couleur complémentaire, n'est-ce pas? Donc le rouge apparaît toujours dans un tableau vert. je sais pas moi, une petite touche au fond, le toit d'une maison au loin, un bouquet de fleurs rouges, un vêtement rouge, quelque chose de rouge, et ces touches rouges éclairent et dynamisent tout le tableau vert. Avec ces touches rouges, tout prend vie. Et donc pour moi, l'Ancien Testament, c'est un peu comme ça. C'est vrai que les hommes sont très majoritaires, même si un jour, un homme n'a pas été nommé, mais il y en a qui portaient l'épée du roi et qui ont été nommés. Donc ouais. Il y a quand même des multitudes de noms d'hommes et très peu de femmes. Et parfois, les femmes sont appelées, c'est la femme de Naomi, etc. Comment ils s'appelaient ?
Certains étaient appelés du nom de leur mari, ouais.
Voilà, elles portaient le nom de leur mari, quoi. C'est la femme d'eux. Mais toi... On ne connaît pas. Enfin, c'est... Mais bref, donc, mais les femmes, en fait, dans l'Ancien Testament, elles sont quand même fondamentales. Certaines apparaissent un peu comme des sommets de montagne. Je pense spontanément à Esther, qui a été une reine exceptionnelle, très très belle, mais très intelligente, avec beaucoup de culture, beaucoup d'éducation, beaucoup de discernement, et aussi... elle a mis sa vie en jeu pour sauver son peuple. Si je dois périr, je périrai. Et elle est allée avec intelligence, elle a géré un problème extrêmement grave. Voilà. Mais il y a d'autres femmes, nous connaissons tous, nous avons plus ou moins entendu parler de la femme de Noé, Sarah, la femme d'Abraham, que Dieu a bénie et a dit « De toi sortiront des peuples et des rois de peuples ». On peut parler de Rebecca, qui a changé le cours de l'histoire d'Israël par son action à travers Jacob. Parce que Dieu lui a dit, alors qu'elle était enceinte, elle a demandé à Dieu de lui donner, de lui expliquer « Mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Mes bébés se battent déjà entre eux ». Et Dieu lui a dit, deux peuples se sépareront, mais le deuxième sera plus fort que le premier. Donc, à cause de cette parole qu'elle a reçue de Dieu, Isaac n'a pas fait grand-chose. Mais elle est intervenue pour que Jacob, le deuxième, ait la bénédiction du père, la bénédiction du fils aîné. Et Jacob s'est retrouvé avec le droit d'aînesse, la bénédiction du père. Et c'est lui, et aujourd'hui, on parle toujours du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi ? Parce que Rebecca est intervenue. Tamar a fait aussi quelque chose de difficilement compréhensible à notre époque, mais à son époque, il y avait sûrement des traditions qui pouvaient expliquer ce qu'elle a fait. Mais ce qu'elle a fait, elle est rentrée dans la généalogie du Seigneur. Est-ce que vous connaissez Jochébed ?
Moi, je connais maintenant.
Voilà, maintenant, il connaît.
Je ne connaissais pas le nom, je connaissais l'histoire.
Voilà, Jochébed, c'est... Hein, Sylvain, est-ce que tu connais Jochébed?
La maman de Moïse.
Bravo! Donc, Jochébed est la maman et la mère de Moïse. Si vous connaissez tous l'histoire du panier, de la princesse, la fille du pharaon, etc. Si Jochébed n'avait pas eu cet amour intense pour son fils et cette volonté, peut-être même au risque de sa vie, de sauver son fils, est-ce que nous aurions eu Moïse ? Il est parlé de Myriam aussi, qui devait avoir sa grande sœur, qui devait avoir beaucoup de caractère. On peut parler de Rahab, qui a été prostituée, mais qui a véritablement cru dans le Dieu d'Israël et qui a eu de la crainte dans son cœur pour le Dieu d'Israël. Cette femme qui avait une mauvaise vie a fini par se marier avec un Hébreu, et elle est rentrée dans la généalogie de Christ. Ruth, cette femme étrangère, au cœur doux, au cœur soumis, elle a cette femme discrète qui n'a fait aucun exploit. Pourtant, un livre porte son nom. Et j'aime beaucoup Ruth, parce que nous sommes très nombreuses en tant que femmes à pouvoir nous reconnaître dans cette femme qui a fait le quotidien, qui a travaillé, qui a assumé le travail, qui a été... douce et humble de cœur, comme Dieu aime. Et elle est rentrée dans la généalogie de Christ, mais elle a été aussi l'arrière-grand-mère de David, du grand roi David, qui est connu sur toute la terre. On peut parler de la femme de Manoah, qui a été la mère de Samson. On peut parler de Déborah, la prophétesse, de Jaël, d'Abigaël, de Bathsheba. Bathsheba a été aussi une des épouses de David, qui est intervenue auprès du roi David pour lui dire « Tu m'as promis que mon fils serait roi ». Et David s'est un peu réveillé, c'est un peu c'est Absalom, je crois, qui commençait à faire une espèce de coup d'état. Mais David a redressé la situation et a mis le fils promis comme roi. Ça, connaissez-vous le nom de ce fils promis? C'est Salomon. Tout le monde connaît Salomon, cet homme qui a été doué d'une très très grande sagesse, d'une très très grande intelligence. Donné par Dieu parce que à sa demande. Donc, si en fait, on peut parler de la reine de Saba, on peut parler de Hulda, une prophétesse, on peut parler de. En fait, les femmes sont toujours là. Et même, par exemple, quand on lit tous les livres des rois et des chroniques, il y a beaucoup de guerres. Les hommes partent à la guerre, n'est-ce pas ? Qui reste à la maison ? Les femmes.
Ouais.
Qui c'est qui va au champ, ramasser, faire tout le travail de l'homme parti en guerre? C'est la femme qui fait tout le travail, qui élève les enfants. Ce sont les femmes qui vont pleurer les morts. Ce sont les femmes qui mettent au monde les garçons, qui les élèvent, qui les éduquent. En fait, la femme, elle est toujours là. Dans l'Ancien Testament, on voit une trame remplie d'hommes. Mais en dessous de cette trame, il y a une autre trame encore plus dense, plus compacte peut-être, une trame vraiment solide, et ce sont les femmes. Les femmes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne nomme même pas, mais qui sont là toujours, toujours, et qui portent en fait la population, qui portent les enfants, qui portent les hommes, qui sont là pour nourrir, pour soigner, pour éduquer, pour etc., qui sont toujours là. Donc, ne soyons pas tristes, nous femmes, de voir si peu de noms, mais les noms qui apparaissent sont en général des femmes vraiment vertueuses, des femmes solides, des femmes intelligentes, des femmes qui ont beaucoup de qualités et qui prennent toute leur place et toute leur raison d'être, et des femmes qui ont changé le cours de l'histoire par ce qu'elles ont fait. Donc, moi, je ne suis plus triste maintenant. Je me dis, oui, c'est vrai, les hommes, on les voit beaucoup. Mais les hommes sans les femmes, ça ne tient pas. C'est pas possible. Les femmes sont là. Donc, elles sont comme des touches rouges dans un tableau vert. Elles donnent de la vie et du dynamisme à l'ensemble. Bon, je ne sais pas, Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose.
Oui, je voulais dire que c'est ça. Qu'on ne se sente pas dans l'ombre, parce que le plus souvent on a tendance à se dire que, parce qu'il y a des versets qui reviennent souvent comme la femme doit être soumise, et puis si j'avoue que je n'ai jamais vraiment compris ce que ce passage veut dire là, et les femmes ont tendance juste à le prendre que je dois être soumise, et la soumission va parfois dans un extrême qu'on ne trouve pas même de nom, en fait. Donc, pour dire que, à celles qui nous écoutent, qu'on n'est pas moins meilleur que nos hommes, même si on ne les dépasse pas, même si on n'est pas, on ne doit pas être au-dessus d'eux, selon les commandements que le Seigneur nous a donnés. Mais c'est de se dire que, oui, nous sommes femmes, mais on a de la valeur aux yeux du Seigneur.
On a de la valeur aux yeux du Seigneur, et les hommes ont tendance à oublier si facilement le verset qui suit, le verset « Femme, sois soumise à ton mari ». Le verset suivant dit « Homme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle ». Mais le travail de l'homme est beaucoup plus difficile que le travail de la femme. Et femme, être soumise à un homme qui nous aime comme Christ a aimé l'Église au point de mourir pour elle, c'est assez facile en fait. On se dit, l'homme fait tout pour notre bien. Il va tout faire, il peut mourir, aller mourir pour nous sauver la vie. en fait. C'est peut-être sûrement ce que des soldats ont fait. Je veux protéger ma femme, mes enfants, ma famille, mon village. Je veux aller me battre contre l'ennemi qui veut nous détruire. Ils sont allés mourir pour la femme et les enfants. Donc c'est vrai que le rôle de l'homme est très difficile. Mais dans notre quotidien de femme hors guerre, on pourrait dire, c'est vrai que les hommes oublient ça, ont tendance quand même pas mal à oublier ce verset-là, pour dire « femme, sois soumise, va me servir, va faire le manioc, va faire ceci ». Et c'est vraiment dommage, parce que les hommes qui ne voient pas la richesse et la beauté de la femme, les compétences de la femme, eh bien, ils se privent de dons, ils se privent d'un enrichissement personnel. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, hein, parce que dans les évangiles, le Seigneur a vraiment valorisé la femme de sa naissance à sa mort et sa résurrection. Mais Marie, sa mère, Chana, la première femme qui a été évangéliste, en fait. Jésus était bébé, comment faire plus vite? Donc c'est une femme qui a parlé du Jésus en tant que Messie qui venait de naître. Elle en a parlé partout. C'est une femme. Marie de Magdala qui a accompagné et soutenu le ministère de Jésus pendant tout son ministère. Elle a toujours été là comme une femme dans l'ombre, mais toujours présente. Elle est là au pied de la croix, elle était là. À la résurrection de Christ, elle est allée au tombeau, pleurer, elle était... Mais c'est elle la première qui a vu Christ ressuscité. C'est une femme. Yeshua a relevé la femme. Il n'en a pas fait des apôtres, il n'en a pas fait des leaders, il n'en a pas fait des grands... Mais il a redonné une place à la femme. Or, il est dit que Christ était doux et humble de cœur. Et ce que le Seigneur demande à la femme, soit soumise. Mais c'est peut-être d'être aussi douce et humble de cœur comme Christ. Une femme qui est douce et humble de cœur peut amener son mari à Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'avoir le cœur de Christ. D'être comme lui, de lui ressembler, d'avoir sa compassion, son amour, d'avoir... mais le Seigneur aime le cœur de la femme. Et c'est ce que j'ai découvert en lisant les évangiles tous les matins. J'ai découvert que Christ aime le cœur de la femme. Je pense à Marie qui a brisé un vase de parfum pour le répandre sur le Seigneur. Qu'ont fait les apôtres? Je ne dis pas des étrangers, les gens du village. Non, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais pourquoi elle a fait ça? On aurait pu vendre le parfum. Pour donner l'argent aux pauvres, il y avait Judas. Mais il y en avait d'autres qui ont réagi aussi comme lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Ne lui faites pas de peine. Mais à cause de ce qu'elle a fait, on dira au monde entier ce qu'elle a fait. Donc, le Seigneur aime le cœur de la femme. À l'époque, le vase de parfum représentait en fait les économies faites, au lieu de garder de l'argent ou des objets précieux, ils gardaient un vase de parfum très très cher parce que c'était petit, facile à cacher, et en fait c'était un peu la dot de la femme. Quand elle se mariait, elle avait cette quantité de parfum là qu'elle pouvait valoriser peut-être pour acheter différentes choses pour son mariage. C'était comme une dot, comme une économie pour elle. Et d'avoir
un peu comme on fait aujourd'hui avec l'or, par exemple, certaines qui thésaurisent avec l'or et tout le reste.
Voilà, donc en fait, d'avoir brisé son vase de parfum sur le Seigneur, c'était pas se marier avec Jésus. Il y en a qui racontent tout et n'importe quoi. Mais c'était, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon maître, tu es mon tout. Et je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. En aucun cas elle s'est mariée ou a eu des relations quelconques avec le Seigneur. Non, ne salissons pas Christ. Non, en aucun cas, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais non. Marie a eu un cœur Elle a aimé le Seigneur avec un cœur pur et le Seigneur l'a vue et a dit, à cause de ce qu'elle a fait, on en parlera dans le monde entier. Le Seigneur aime le cœur de la femme. Il aime Marthe, Marthe qui avait l'habitude d'accueillir et de servir. On dit toujours, oui, Marthe a choisi la mauvaise part. Marie a choisi la bonne part en étant assise et en écoutant. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est vrai, Marie, mais Marie avait le cœur de servir et d'aider, de donner. Marthe, pardon, avait le cœur de donner de la nourriture, de la boisson, de l'eau, de faire en sorte que tout le monde soit bien, pour bien profiter de ce moment. Marie avait un cœur généreux. Pendant une période, je me reconnaissais tellement dans Marie, celle qui sert, mais qui n'a même pas le temps de lire la Bible, parce que non, le matin, dès qu'elle se réveille, le petit est déjà là, il faut s'en occuper, il faut faire ceci, cela, jusqu'à tard le soir, quand on est fatigué, on s'épuise, ah, je n'ai pas eu le temps de lire la parole, pardon Seigneur, toute ma journée, je l'ai passée à servir la famille, à travailler, à servir la famille, je me sentais Marthe, et puis un jour, j'ai lu, Jésus aimait Marthe et sa sœur, qui n'est pas nommée, et Lazare. Jésus aimait Marthe. J'en ai presque les larmes qui me reviennent aux yeux. Jésus aime la femme. Jésus aime le cœur de la femme. Donc ça m'a énormément consolée. Dans le reste du Nouveau Testament, il y a beaucoup moins de femmes. Il n'y en a pas beaucoup de citées, mais celles qui sont citées, il y a Priscilla qui a éduqué, enfin qui a achevé la formation d'un orateur, d'un grand orateur qui savait déjà beaucoup de choses, qui parlait avec beaucoup d'aisance pour enseigner. Mais elle a achevé la formation de cet homme. Donc c'était encore une Esther du Nouveau Testament. Et je pense aussi, j'aime beaucoup la pauvre veuve qui a donné les deux dernières pièces qui lui restaient. Là, je vois malheureusement le chrono qui passe et je ne vais pas avoir le temps d'en parler.
On peut encore tirer quelques minutes, il n'y a pas de souci.
C'est vrai ?
Ouais, oh, vas-y.
Qu'il est gentil. Merci. Donc la femme veuve qui a donné les deux dernières pièces qui lui restaient, pour moi, c'est ma Job du Nouveau Testament. Cette femme était veuve. Elle n'a plus de mari. Pas d'enfant, puisqu'elle n'a plus rien. Personne ne la soutient. A-t-elle eu des enfants ou non ? Je ne sais pas. En tout cas, elle est toute seule. Elle est âgée, mais elle a traversé toute la vie et au bout de sa vie, elle a tout perdu. Elle n'a plus personne de sa famille, aucun ami, elle n'a personne. Il ne lui reste que deux petites pièces et ces deux petites pièces, elle va les mettre au temple. Dieu Tout-Puissant, j'ai tout perdu, mais je suis là, moi. Et au lieu de me révolter, je ne me révolte pas, je ne me rebelle pas contre Dieu. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi, à cause de lui, j'ai perdu mon mari, mes enfants ? Pourquoi est-ce que je subis une vie pareille ? Non, rien du tout. Avec un cœur doux et humble, elle a mis tout ce qui lui restait pour vivre dans le tronc. Et le Seigneur était là pour la voir. Il a vu cette femme. Et cette histoire est racontée deux ou trois fois dans les évangiles. Il a vu cette femme. Il a vu cette femme. Et comme Marie qui a brisé le vase, on parle aujourd'hui, cette femme, ce qu'elle a fait, le monde entier peut le savoir aussi. Il suffit de lire et d'apprendre ce que cette femme a fait. C'est remarquable. Elle a eu le cœur doux et humble. Elle a aimé Dieu jusqu'au bout de sa vie. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé après, mais je suis sûre que Dieu a pris soin d'elle jusqu'au bout. Car il a dit, c'est écrit dans l'Ancien Testament, je me souviens plus du verset exact, mais il dit qu'il prend soin de nous, même jusqu'au le cheveu blanc, il en prend soin jusqu'au bout du chemin, il prend soin de nous. Je suis certaine qu'après cet acte extraordinaire qu'elle a fait, je suis certaine qu'il a pris soin d'elle.
Forcément, si Dieu a pris soin de la veuve de Sarepta, il a dû prendre soin de celle-là.
Si vous voulez dire encore quelque chose.
Il y a tellement de choses à dire sur les, sur la femme dans la Bible. Hein. Alors, je voudrais lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Alléluia, c'est beau.
C'est beau. Hein,
c'est vraiment beau.
Donc, femmes, ayons courage, gardons courage. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu que les hommes, mais nous avons tout simplement un rôle différent. Hommes, prenez vos responsabilités, assumez ce que Dieu vous a demandé. Aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église au point de se livrer pour elle, pour son salut. Aimez votre épouse et elle vous le rendra 10 000 fois, 100 000 fois. Une femme heureuse et bénie, c'est une femme qui va rendre ses enfants heureux, bénis. Toute la famille est heureuse et bénie. Elle grandit, prospère. Voilà, mais voilà, c'est une... Et femmes, soyez soumises à vos maris. C'est vrai, ça peut paraître difficile, mais c'est plus facile que ce que Dieu, que ce que le Seigneur a demandé à l'homme. Et gardez confiance et courage. Dans la Bible, il y a beaucoup de mystères. On ne comprend pas pourquoi. Mais gardons confiance en Dieu. Faisons-lui confiance. Demandons-lui son aide, parce que sans l'aide de Dieu, il est difficile d'accomplir de certaines choses. Mais avec son aide, on y arrive. Une dame m'a dit, « Ah, quand mon mari fait des choses qui ne sont pas bien, avant, je lui faisais des reproches et ça ne marchait pas. Ça créait la division. Mais maintenant, j'ai changé. Ah ben maintenant, je vais me plaindre au Seigneur. Et puis j'attends. Et puis quelques jours après, ah ben mon mari change. Ah ben c'est étonnant ça. Donc voilà, si vous souffrez, femme, plaignez-vous auprès du Seigneur. Il va vous aider et intervenir dans votre situation douloureuse.
Il y a une histoire que mon épouse aime souvent, elle aime raconter aux gens. Bon, elle la raconte un peu moins maintenant parce qu'elle en a d'autres. C'est l'histoire d'une femme qui est mariée et elle passe dans une très belle voiture avec son mari. Ils ont une très belle réussite sociale. Et elle dit à son mari, ah mais tiens, voilà le... Je prends un exemple. Voilà Jean dont je te parlais. En fait, c'est lui que j'allais épouser. C'est lui qui allait m'épouser avant qu'on ne se rencontre. Et puis Jean, il est ouvrier dans le bâtiment. Et son mari lui dit, ah mais si tu avais épousé Jean, tu serais la femme d'un ouvrier dans le bâtiment. Et la femme lui dit, non, si j'avais épousé Jean, il serait au même rang que toi. Et en fait, c'est une vérité. En fait, la femme, c'est une bénédiction pour l'homme. En fait, l'homme qui sait valoriser sa femme pour la mettre à la place que Dieu lui a donnée, ce n'est que tout bénéf pour lui. Ce n'est que tout bénéf. Moi, je dis toujours aux gens aujourd'hui, ce que Dieu a fait de moi, tout l'honneur revient à Dieu. Mais j'ai envie de dire, sur le plan pratique, 90% de la charge a été portée par ma femme. Je prends un exemple. Quand je préparais mon diplôme d'expertise comptable, je pouvais m'absenter 2 mois à l'étranger. Il fallait que ma femme reste seule, parfois avec les enfants. Même quand je révisais à la maison, je révisais les soirs. Donc, parfois, on pouvait faire 2 semaines, je ne dors pas dans la chambre parce que je révise le soir, parce que la journée, je travaille. Tout l'honneur est pour elle. Il y avait la paix à la maison, il n'y avait pas de pression, elle acceptait de prendre sur elle et tout le reste. Je sais que pour nous, les hommes, c'est difficile. Par exemple, d'accepter de porter une partie de la charge de la femme pendant un temps. Par exemple, garder les enfants, c'est dur pour un homme de garder les enfants, je ne sais pas, une semaine, quoi. C'est compliqué. Il faut les baigner, il faut faire à manger, il faut les coucher, il faut faire les devoirs. Ils viennent se plaindre toutes les 2 minutes. C'est compliqué. On n'a pas cette patience. On n'a pas la patience pour ça. Parce que, je ne sais pas, on est peut-être configuré pour voir les choses autrement. Voilà, on est vraiment configuré pour voir les choses autrement. Et dès lors qu'on porte la charge de la femme pendant un temps, d'ailleurs, il y a un film qui passe, un film d'Hollywood. Je regardais un peu un extrait, c'est un monsieur qui a perdu sa femme. Et puis, il a le bébé qui pleure et il est dépassé, il est obligé d'aller dans une réunion de femmes, de mamans, pour demander l'aide. En fait, il n'en peut plus. il n'en peut plus. Ouais. Alors que ça, pour les femmes, c'est naturel. Une jeune fille qui a mis au monde très jeune, bon, elle s'est aventurée, elle a voulu vivre un peu la vie du monde, elle a fait un enfant à 15 ans, mais même à 15 ans, voir l'instinct maternel qui est déjà développé. Chez des enfants de 5 ans, 6 ans, tu les vois avec les petites poupées et tout le reste, des objets, l'instinct maternel est déjà développé. La petite grande sœur qui a 6 ans, 7 ans, qui a déjà l'instinct maternel avec son petit frère, avec ses petites sœurs. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Femmes, soyez bénies.
Merci.
Que Dieu, vraiment, le Dieu qui a enlevé ces choses-là dans vos cœurs, vraiment qu'il continue à le faire. Et aussi que nous, les hommes, on puisse être comme Dieu veut qu'on soit. Vraiment, comme le Seigneur dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pour justement planter dans le cœur de nos femmes, de nos sœurs, parce que c'est pas seulement nos épouses, hein, y compris nos sœurs, nos enfants, nos collègues, nos parents, cette graine divine pour mettre à l'honneur, voilà, la femme et la place que Dieu lui a donnée, son rôle, voilà, et l'homme tout en étant chacun à son rôle. Sylvaine.
Oui, pour dire que Je veux revenir sur le passage là que la sœur disait. Marie, aimez vos femmes. Parce que nous ne sommes pas seulement les femmes de ménage, de la maison, les gardiennes des enfants. Mais le fait de se sentir aimée, encouragée, ça donne encore la force de faire plus. Voilà, ça donne... Et même si le Seigneur ne nous a pas demandé d'aimer nos maris, mais de les être soumis, ça crée ce sentiment-là. Parce que, comme on dit souvent, avant, les femmes partaient en mariage. Pour nous, en Afrique, elles partaient en mariage. On les donnait en mariage même. Moi, ma mère, elle est allée en mariage. On l'a donnée. Elle avait peut-être 12 ou 13 ans. On l'a donnée en mariage.
Moi, la mienne, on l'a soulevée à l'épaule.
Voilà, donc...
Si, elle m'a raconté.
Oui, elle fuyait parfois, mais les parents la ramenaient chez le mari. Donc, pour dire que même dans ces cadres-là, si elles ont pu s'adapter, c'est peut-être parce que quelque part aussi les maris avaient une certaine manière de se comporter vis-à-vis d'elles. Et donc, moi, je pense que si nos maris nous le rendent bien, nous aussi, à notre tour, on va bien le leur rendre et le foyer ne pourra qu'aller mieux. Quoi. La femme aussi, même s'il y avait quelques blessures que peut-être un papa ou un oncle avait mis dans son cœur et qu'elle se disait que la femme n'avait pas la valeur. Grâce à son mari, elle peut dire « oui, j'ai de la valeur ». Et encore plus avec le Seigneur, lorsqu'on est avec le Seigneur, on voit encore plus notre valeur que lorsqu'on vit dans le monde, s'il faut dire ça comme ça. Lorsqu'on vit sans Jésus, on ne voit pas véritablement notre valeur. Mais lorsqu'on s'attache véritablement au Seigneur, on comprend qu'on a une certaine valeur, qu'on est unique, qu'on n'est pas un chiffon, qu'on n'est pas rien, qu'on n'est pas zéro, même si on n'a pas fait des grandes études, même si on n'a pas... un travail comme d'autres, mais qu'on ne se méprise pas, qu'on ne se dévalorise pas, en quelque sorte. Ce que je peux rajouter.
Alors, le mot de fin pour Maman Elena.
Mot de fin, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de fin, en fait. Continue. Je voudrais juste dire, par exemple, dans les églises, en tout cas, enfin, des églises que j'ai connues, que je connais, il y a plus de femmes que d'hommes.
Oui, juste, ouais.
Par exemple, j'ai entendu sur EMCI TV que sur les 5000 semeurs pour soutenir l'œuvre de EMCI, il y avait 78% de femmes.
Ça me surprend pas. Moi, ça me surprend pas.
Donc, les femmes sont toujours là. On voit Jérémy Sourdril, on voit Michael Lebeau, mais ben, c'est les femmes qui portent 78% de l'œuvre. Donc, voilà, les femmes, nous sommes toujours là. Peut-être moins visible, parce que chacun a aussi sa place, quoi, son rôle. Et si on accepte son rôle, sa place, ben on se sent tout simplement bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis une femme. Et de ne pas être apôtre ou machin, ça me convient. Mais alors là, mais parfaitement. je préfère faire partie des 78 que d'être, que d'être à l'exposition. Par exemple, j'aime énormément la Bible juive complète. Et dans ses remerciements, il a dit « Ma femme », alors ça c'est Martha. Bon, voilà, sa femme s'appelait Martha. « Ma femme, Martha, a été très précieuse pour préparer cette version, etc. » Donc il la remercie pour tout le travail de relecture qu'elle a effectué avec lui. Elle a dit « C'est une compagne capable de m'aider selon Genèse 2. » Donc voilà, on peut, une femme peut aider dans toutes les tâches ménagères, mais une femme peut vraiment aider son mari dans son œuvre même, même si on dit hein, tous les grands hommes, il y a une femme derrière, quoi. Donc par exemple, je pense, j'ai un livre là, j'ai pas eu le temps de tout relire, c'est les livres, les héros de la foi. Ce sont des héros des siècles passés. Ce sont des précurseurs de l'évangile, des hommes qui se sont levés pour, qui ont repris la parole de Dieu directement en sortant de la religion qui a rajouté énormément de choses dessus. Donc ils sont, ce sont des hommes, mais derrière la vie de ces grands hommes, mais on voit aussi des femmes. On voit des femmes qui les ont élevés, qui ont pris soin d'eux, qui les ont éduqués, qui leur ont appris, qui leur ont fait connaître Dieu, etc. Je ne sais plus lequel, mais il y a une femme qui s'est battue, mais qui avait beaucoup de fils, mais qui les a tout élevés avec discipline, discernement, intelligence, qui passait un temps avec chacun de ses enfants pour parler avec lui d'une manière profonde et sincère, etc. Enfin, voilà, donc la femme, elle est là, elle est la trame parfois cachée, mais une trame fondamentale à notre société. Voilà, après le mot de la fin, ben, femme, soyez bénie, gardez courage, relevez la tête. Donc j'aime cette histoire de la jeune fille. Ah, ça, non, franchement, il faut quand même que je le rapporte parce que j'aime beaucoup. Dans Marc, attendez, je retrouve vite, puis après j'arrête, parce que sinon, Évrard va me gronder. Alors, c'est la jeune fille, Touk. Alors, la jeune fille, son histoire est rapportée trois fois, mais dans le livre de Marc, il est dit, Jésus, vous connaissez, donc c'est une jeune fille qui est morte, mais le Seigneur a dit non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il l'a pris par la main et lui a dit, Talita Koumi. Alors c'est un texte exceptionnel parce que c'est comme si Jésus parlait dans sa langue à l'époque, Talita Koumi. Tout est en français avant, tout est en français après, mais Jésus a dit avec ses mots de l'époque, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Alors moi ça m'a beaucoup touchée parce que c'est comme s'il disait « Femme, jeune femme ou femme, lève-toi, redresse la tête. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance et le Seigneur relève la femme. Non pas pour être leader, ceci, cela, ça ne sert à rien. Mais Dieu aime le cœur de la femme. Dieu voit la femme. Et le Seigneur dit « Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. » Quelques chapitres plus loin, donc là c'est Marc 5, dans Marc 7, nous entendons l'histoire, vous n'avez qu'à lire, hein, je ne vous dis pas le verset. Donc le Seigneur guérit un sourd. Il était sûrement sourd de naissance parce qu'il ne parlait pas non plus. Donc il n'avait pas forcément entendu parler. Ou peut-être qu'il l'a entendu un peu, ça fait longtemps, je ne sais pas. En tout cas, il était sourd. Et il avait de la difficulté à parler. Peut-être qu'en voyant, en imitant la bouche, etc. Et le Seigneur lui a dit, ah mince, c'est pas dans le même texte. Et le Seigneur lui a dit, Ipatash. C'est traduit c'est écrit dans les versions modernes, Ephata. Mais le mot de l'époque que Jésus a prononcé, c'est Ipatash. Et Ipatash, ça veut dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. C'est étonnant quand même que Talita Koumi, jeune femme, lève-toi, prends confiance, marche avec le Seigneur. tu es aimé du Seigneur. Et il a dit à l'homme, Hippatach, ouvre-toi, ouvre ton cœur, apprends à parler. Aussitôt, ses oreilles se sont ouvertes et il s'est mis à parler très bien. Donc, l'homme doit aussi apprendre à écouter sa femme, à écouter l'autre, à comprendre ce que l'autre veut dire au lieu de l'envoyer paître. Donc, l'homme doit apprendre à écouter et à parler. Parler, c'est quoi ? C'est communiquer. Donc, ô homme, entendez-moi. Ouvrez vos cœurs, apprenez à entendre et apprenez à parler, à communiquer. C'est peut-être mon mot de la fin.
Ok. Gloire à Dieu. Les hommes, nous avons entendu, nous avons écouté et que Dieu nous apprenne toutes ces choses. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. C'était un très beau partage. Que Jésus soit glorifié. Donc on va juste prier pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments, pour ce partage. Nous te bénissons pour ta parole, pour ton assistance. Merci de nous garder, de nous conduire. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse davantage porter la vie dans les cœurs et qu'elle puisse apporter du réconfort, du courage, de la détermination, qu'elle puisse enlever des écailles, Seigneur, et qu'elle puisse apporter, Seigneur, la vie là où il y avait la mort. Merci pour ce cœur qui est encouragé, pour cette vie qui est bâtie. Merci pour ces hommes qui sont transformés, pour ces femmes qui sont transformées, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout, pour la suite des émissions. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Soyez bénis chez vous et à très bientôt.